Nicolas Patin, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer le livre que vous venez de faire paraître avec Julie Le Gac, Guerre mondiale, qui vient de paraître donc aux éditions Armand Collin. Donc Nicolas Patin, vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et Julie Le Gac est maîtresse de conférence à l'université de Nanterre. Alors vous proposez avec ce livre une synthèse extrêmement importante sur ce moment allant de 1914 à 1945, qui est à la fois un moment décisif et pour l'historiographie, puisque c'est probablement l'une des périodes les plus travaillées par les livres et la recherche. On évoquera peut-être les distinctions entre un horizon grand public d'un côté et un horizon de chercheur de l'autre. Et en même temps, à l'échelle de l'histoire aussi bien de l'humanité que des sociétés contemporaines, c'est aussi un moment qui est extrêmement déterminant, puisqu'on peut considérer que les sociétés dans lesquelles on vit sortent d'une façon ou d'une autre de ce moment historique-là. En revanche, c'est aussi un moment qui connaît depuis plusieurs années, et entre autres pour la guerre de 1914-1918, pour la Première Guerre mondiale, un renouvellement historiographique extrêmement fort, dont vous avez voulu prendre acte avec ce livre. Alors peut-être pour commencer, simplement évoquer le projet qui était le vôtre avec Julie Le Gac. Vous évoquez dans l'introduction le fait que votre souhait est donc effectivement à la fois de tenir compte de ce renouvellement historiographique, mais aussi d'avoir deux horizons qui sont des tendances actuelles de l'histoire, à savoir une dimension d'histoire populaire, c'est-à-dire pas faire simplement évidemment une histoire bataille qui a été faite et refaite à l'infini, et puis aussi un autre mouvement fort qui est la question de l'histoire globale, c'est-à-dire ne pas sur ces deux guerres avoir un regard uniquement européo-centré et évidemment encore moins franco-centré.
Alors merci Pierre Coutel et merci pour l'invitation à la librairie Mola. On regrette vraiment, Julie devait être parmi nous et malheureusement elle a pas pu venir. Donc c'est un réel regret parce que sur ce qui est de l'organisation du volume, je me suis occupé de la Première Guerre mondiale et elle de la Seconde Guerre mondiale. Et puis on a rédigé tous les deux le chapitre sur l'entre-deux-guerres. Mais du coup, je ne peux que pallier difficilement son absence pour parler de la Seconde Guerre mondiale. Le projet était assez simple, et là on rentre un peu dans la machine des éditeurs et des libraires. Armand Collin voulait installer une nouvelle collection, qui est celle-ci, Mnemosia. Mais au départ, la commande était un manuel traditionnel sur les deux guerres, avec un statut relativement flou sur l'entre-deux-guerres. Est-ce qu'il fallait en parler, pas en parler ? On a pris la décision avec Julie, avec qui on avait déjà travaillé sur le volume qu'elle a co-dirigé sur l'Europe des femmes, avec Fabrice Virgili, d'écrire à deux. Et le projet qu'on a proposé à Armand Collin s'est tout de suite transformé dans cette nouvelle collection dans laquelle il y a déjà eu un certain nombre d'ouvrages, mais dont le format n'est pas encore stabilisé entre essais, manuels, synthèses. Et nous, donc, on a fait le choix de vraiment aller vers l'idée d'une c'est pas un essai, c'est vraiment une synthèse où la lectrice, le lecteur peut trouver les éléments les plus récents et factuels sur ces questions-là. Une fois qu'on a dit ça, on voulait quand même qu'il y ait... un axe, des axes forts. Il y en avait un qui était tout simple, en fait. On sortait, juste à ce moment-là, du centenaire 14-18 en France et en Europe et dans le monde. Et un chiffre, et à mon avis éclairant, dans l'espace français, uniquement français, 2300 livres sont parus sur 14-18 entre 2012 et 2018. Et bon, c'est annexe, mais on venait de travailler avec un collègue qui s'appelle Arne Weinrich au bilan scientifique du centenaire. Et moi, je me suis dit... ces livres-là, on ne les a pas tous lus, mais il faudrait prendre acte de qu'est-ce qui est devenu le débat sur 14-18 à la faveur du centenaire. Et on sait qu'en France, il a été très controversé dans les années qui précèdent. Dans le même temps, sur la Seconde Guerre mondiale, tous les jours, toutes les semaines, il y a un nouveau livre qui paraît, Histoire-Bataille, Anthony Bivor, Front occidental, Front oriental, Résistance. Donc on avait le même travail à faire, sans qu'il y ait l'ampleur visible du centenaire de 14-18, mais il y a toujours ce travail de renouvellement. Donc ça, c'était le premier axe, et on a essayé de bien le faire, c'est-à-dire que dans la lecture, en fait, les lecteurs puissent trouver vraiment des références bibliographiques et des éléments factuels qui sortent de l'historiographie des 6-7 dernières années. Premier point. Le deuxième point, c'était vraiment une tentative de faire une histoire populaire, alors pas comme elle a été extrêmement bien faite par le fondateur Howard Zinn, Histoire populaire des États-Unis, par les épigones français, comme évidemment Michel Zancarini-Fournel et d'un autre côté Gérard Noiriel, qui était venu ici chez Mola, où là on est face à des spécialistes d'histoire sociale qui savent ce qu'ils font, qui produisent vraiment une réflexion sur l'histoire par en bas. Nous, c'était vraiment une tentative, c'était de dire on n'est pas là pour faire ce qui a très bien été fait par ailleurs, par exemple par François Cochet, dans son histoire de la Première Guerre mondiale, histoire militaire, vue par en haut, aussi un peu par en bas. Nous, on était là pour dire, OK, on a cette bibliographie, mais on a aussi des sources qui nous permettent de faire entendre la voix de ceux qu'on n'entend pas, des subalternes, les femmes mobilisées, les ouvriers, les paysans, telle personne qui va se retrouver pris entre deux fronts, serbe, pris dans l'armée, mais dans l'armée austro-hongroise, se battant contre ses frères serbes, etc., etc. Donc on a essayé, on ne peut pas revendiquer que ce soit une histoire populaire. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire tout ça dans 400 pages. Mais on a essayé de décentrer un peu le regard. Puis la deuxième tentative, c'était de faire une histoire globale. Alors là, c'est une vraie question qui irrigue le livre, dans le sens où ces dernières années en France, il y a une vraie mode historiographique qui produit des très bonnes choses, et parfois des moins bonnes choses, qui est donc cette histoire mondiale, mais qu'en fait on appelle Global History dans le monde anglo-saxon, qui a suivi la publication par Patrick Boucheron de l'histoire mondiale de la France, qui a eu un grand succès, etc. Donc nous, sur ce genre de projet, en fait, quand on regarde l'histoire de l'esclavage par Paulin Ismar ou Cécile Vidal, quand on regarde l'histoire globale de la France dirigée par Quentin de Luermoz, c'est des ouvrages où il y a 10, 15, 20, 60 chercheurs. Donc nous, on n'est pas capable à deux, quand bien même on parle anglais, allemand, italien, pour Julie, etc., on n'est pas capable de faire une réelle histoire globale. De la même manière, en fait, on a essayé de s'abreuver à l'historiographie germanique, anglo-saxonne, pour décentrer le regard. Et on en arrive à cette idée que le livre, quel est son objectif ? On n'est pas, quand on travaille sur les guerres mondiales, on est toujours David contre Goliath. On est, pour 14-18, on est tout petit face à l'historiographie française, Stéphane Audouin-Rousseau, Annette Becker, l'histoire militaire, Christopher Clark, enfin, il y a plein de choses, Nicolas Beaupré qui a fait paraître des choses. Pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, on a les monuments, histoire de la résistance en Europe occidentale, Olivier Vivorquin, enfin, il y a plein de choses. Donc, le but, c'était avant tout d'essayer, en ayant ces axes-là, que le lecteur français, qui connaît, par exemple, pour 14-18, la bataille de Verdun, il connaît la bataille de la Marne, il connaît l'entrée en guerre française, ben, qu'on regarde par ailleurs, qu'on regarde par la Serbie, qu'on regarde par le Pacifique pour la Seconde Guerre mondiale, qu'on essaye de trouver l'exemple qui va satisfaire un public déjà un petit peu, voire très formé sur ces questions-là, mais qu'on lui fasse regarder ces objets-là par ailleurs, par d'autres endroits. Voilà, c'était un peu ça l'objectif.
Alors, et justement, alors ça commence dès l'ouverture du livre avec cette question qui, dès l'immédiate après Première Guerre mondiale, traverse l'historiographie et puis même le débat public, et la question des responsabilités, savoir qui déclenche la guerre, comment elle se déclenche, et puis qui a connu, effectivement, vous l'évoquiez, avec les somnambules, justement en 2014, une très grande visibilité à nouveau. Ce que vous faites, en l'occurrence, là, dans le volume Guerre mondiale, c'est de montrer que ce déclenchement, donc justement en Serbie, il induit déjà une forme de compréhension de la causalité qui n'est pas forcément celle qui est de savoir est-ce que l'Allemagne, est-ce que la France, mais de montrer que tout ça est pris dans des choses qui précèdent la guerre 14. Et c'est l'un des objectifs aussi du livre, c'est de montrer de quel côté on est sur une rupture, c'est-à-dire qu'est-ce que la guerre de 1914-1918 vient changer et à quel sujet on est au contraire dans tout un tas de continuités. On le reverra après, entre autres, la question de l'industrialisation et de la place de l'État. Donc justement, sur cette question, on va dire, à la fois de la causalité et l'engrenage initial, qu'est-ce qui vous semble relativement, si ce n'est nouveau, ou quel est votre point de vue sur ce point-là ?
Alors, sur la question de qui a déclenché la guerre, l'article 231 du traité de Versailles avait réglé la question de manière un petit peu directe en disant l'Allemagne et ses alliés sont responsables pour l'avoir causé de tous les dommages de la guerre. Donc clairement, attribuait la responsabilité à l'Allemagne et en découlait l'ensemble des réparations et des autres conditions du traité de Versailles. Cette historiographie-là, c'est pas de la fausse modestie, elle est immaîtrisable. Il y a tellement de choses. Quand Christopher Clark publie en 2013 en anglais puis en français « Les somnambules », 300 000 exemplaires en Allemagne, 45 000 en France. Il maîtrise déjà tous les débats précédents sur qui a fait quoi, des archives diplomatiques qu'aujourd'hui, franchement, 5 ou 6 chercheurs en Europe, j'exagère peut-être un peu, mais sont capables de maîtriser. C'est-à-dire Annika Mombauer, Gerd Krumeich en Allemagne, etc. Donc c'est pas moi, pour le coup, qui ai rédigé cette partie-là, qui peut dire quelque chose. En fait, je pense qu'il faut partir d'une démarche interactionniste. En tant qu'enseignant, je connais mes étudiants. Donc je sais en fait leur représentation un petit peu en tant que conférencier à plein d'endroits, dans plein d'endroits différents sur l'Hexagone. Je sais à peu près quelle est la vision et les connaissances du public français sur tout ça. Donc l'assassinat de Sarajevo le 28 juin 14, etc. Donc le travail, il est avant tout pas tellement un travail d'accumulation des connaissances, ça on le fait, il est disponible dans l'historiographie, mais de choix narratif. Et donc bah, là, évidemment, quand on repart de l'annexion de la Bosnie par l'Autriche-Hongrie, quand on repart, et là aujourd'hui, c'est ça qui est super, on a des sources à foison. Je donne un exemple tout bête, toute la presse autrichienne est numérisée en ligne. Donc en fait, moi, j'ai pas de problème. Je vais sur ce site-là, je lis la presse autrichienne et tchèque en langue allemande du mois de juillet. Ensuite, je vais sur la presse anglaise et je trouve, j'ai le canevas narratif que je connais de l'historiographie, mais je vais trouver des exemples et parfois des grandes surprises. Une chose toute bête que j'ai découvert, enfin, dont je me suis rendu compte en écrivant le livre, la guerre commence à Belgrade. Mais Belgrade, aujourd'hui, quand vous êtes à Belgrade et que vous regardez vers le nord, vous regardez en Serbie, c'est la Voïvodine, c'est le Serbe. À l'époque, c'est l'Autriche-Hongrie. Donc la guerre se commence à travers un pont. Et il y a un soldat d'ailleurs qui va mourir, qui est le premier soldat qui meurt sur un pont. Alors je suis même allé voir les cartes pour savoir si tous les ponts de Belgrade étaient encore à l'époque. Donc ça, c'est le subterfuge narratif pour que le lectrice ou le lecteur se dise « Ah mais oui, en fait, les taxis de la Marne ou les grandes batailles ou Liège ou Louvain en Belgique, ça se passe là. » Et donc par ce biais-là, on arrive à reconstituer le fait, mais qui est connu, donc j'ai pas tellement besoin de m'y appesantir, que la Première Guerre mondiale ne commence absolument pas comme Première Guerre mondiale. Elle commence comme une guerre régionale qui va très vite s'européaniser via un coup de poker de l'Autriche-Hongrie aidé par l'Allemagne qui joue un jeu très dangereux. Donc ça, c'est par exemple, c'est très connu dans l'historiographie allemande. C'est ce qu'on appelle le chèque en blanc que fait Guillaume II à l'empereur austro-hongrois. Et c'est ça qui va européaniser puis mondialiser cette guerre. Mais c'est vrai que bon, bah, quand on remet tous ces mécanismes, typiquement, l'assassinat de Sarajevo, quand on est un enseignant du secondaire ou du supérieur et qu'on doit en une heure expliquer la Première Guerre mondiale à des étudiants en leur disant ben voilà, c'est l'attentat qui a créé ça, mais pas du tout. Des têtes couronnées qui, passez-moi l'expression, mais qui sont fait décaniller 20 ans, dans les 20 ans qui précèdent la Première Guerre mondiale, il y en a des dizaines. Donc il faut en même temps montrer l'engrenage et le remplissage du baril de poudre et l'étincelle qui va faire exploser tout ça, quoi.
Et justement, alors. Parce qu'on ne va pas pouvoir évidemment reparcourir dans le détail chacun des événements de cette période-là de l'histoire, mais justement dans les choses qui font rupture et sur lesquelles vous insistez dans le livre, c'est quand les combattants partent sur le front, et c'est deux choses qui sont assez passionnantes. C'est d'un côté ce que vous dites, c'est que le sentiment que finalement les cadres militaires ont entre guillemets une guerre de retard, au sens où leur horizon, évidemment, c'est 1870, et ce qui va causer un certain nombre et faire en sorte, entre autres, que ce sont les premiers mois de la guerre qui sont de très loin les plus meurtriers. Et de l'autre, et ça qui est un vrai changement anthropologique, parce que vous y revenez à plusieurs reprises et aussi sur la Deuxième Guerre mondiale, qui est la bascule dans une guerre post-héroïque. C'est-à-dire un rapport des soldats à l'acte militaire qui change complètement de statut par rapport justement à ce qui était présenté autrefois comme étant la valeur de la guerre, à savoir l'héroïsme.
Alors, il y a deux questions dans votre question. Il y a la question de la chronologie. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à l'historiographie, notamment française, alors là, pour le coup, moi, je revendique cette histoire un peu... Moi, je suis spécialiste de l'Allemagne, donc de base, je ne connais pas grand-chose à l'histoire française, mais on peut se faire un petit moment de cocorico et de fierté française. L'historiographie française sur la Première Guerre mondiale, elle est incroyablement dynamique. On a des jeunes chercheurs et chercheuses comme Emmanuel Saint-Fussien, Manon Pignot, Franziska Heimburger, Emmanuel Cronier, enfin, on ne va pas tous les lister, mais qui montrent que, évidemment, tout ne s'invente pas en 14. Les processus sont cumulatifs, et c'est vrai que quand on regarde l'ouvrage... La chronologie n'est pas où on l'attend. C'est-à-dire que typiquement, c'est en 1915 que la Première Guerre mondiale commence à se radicaliser pour devenir une guerre totale. Les bombardements ne deviennent un vrai outil massif de destruction des populations qu'en 1941 ou 42. Donc ça défie les chronologies habituelles, y compris dans ce qui peut se passer de changements dans l'entre-deux-guerres. Pour ce qui est de cette période, c'est pour ça qu'elle est intéressante à penser comme un bloc, 14-45, c'est qu'effectivement, il y a un déchirement. Il y a quelque chose qui se joue en 14, 15, 16 d'un au revoir avec le monde d'avant et un au revoir extrêmement radical en termes d'industrialisation. Pas au départ. Les puissances européennes ne sont pas prêtes pour la guerre qu'elles vont mener. Donc partout en Allemagne, en Angleterre, il y a le Shell Scandal, c'est-à-dire il n'y a pas assez de munitions. Donc attention, tout ne se joue pas en août 14. Mais au fur et à mesure de la guerre, les choses évoluent. Et vont transformer le monde. Et effectivement, votre deuxième question, ce qui caractérise la période 14-45, et là on peut référer pour la bibliographie au très bon livre dirigé par Bruno Cabanne qui s'appelle Histoire de la guerre au 19e-20e siècle, très gros volume au seuil, Oui, quelque chose se passe, parce qu'il y a eu les guerres napoléoniennes. Et le 19e siècle n'est pas, comme l'a dit Karl Polanyi, une paix de 100 ans. Mais malgré tout, c'est un siècle qui ne connaît pas de conflagration généralisée des puissances européennes. Il y a la guerre de Crimée, il y a les guerres franco-prussiennes, austro-prussiennes, etc. Mais malgré tout, il y a cette espèce de long siècle entre 1815 et 1914. Ben, tous les changements qui travaillent, l'invention du barbelé, 1874, l'invention du fusil à coups répétés, la naissance d'un État qui est capable, en fait, d'envoyer une armée de conscrits massive en guerre, l'alphabétisation. 14-18 est la première guerre où les gens peuvent raconter en masse, même l'armée russe, qui est considérée comme une armée d'illettrés, paysans, complètement arriérés. Il y a 68% de soldats qui savent lire et écrire. Donc, en fait, on est dans une guerre qui inaugure quoi ? Une guerre qu'on peut dire, une guerre gérée par un État qui va connaître une explosion de ses attributions. Donc, en fait, et ça, c'est 14 comme 39-45. L'État devient le palliatif de l'armée qui n'est plus capable de gérer la guerre totale tout seul. C'est une guerre, et là vous venez de le dire, qui en fait détruit les formes de la guerre traditionnelle. Pour ces raisons techniques, pour des raisons tactiques et stratégiques du point de vue militaire, et ça on le connaît par la littérature, c'est Barbus, c'est Genevoix, c'est Remarque, c'est Malaparte, c'est Tchernansky. Qu'est-ce que ça veut dire que de monter en combat quand 90% des blessés de 14-18 sont des blessés par l'artillerie à distance ? 14-18 est une guerre où il y a du corps à corps, mais il y en a très peu, et où en fait les soldats se retrouvent dans une guerre absurde, passive, où ils sont tués, mais ne tuent pas. Alors oui, il y a Sandrars, j'ai tué, ça existe, mais massivement, statistiquement, c'est une guerre où on reçoit la mort et on ne la donne pas. Et ça, ça change tout. Parce qu'en fait, ça explique la crise de l'entre-deux-guerres, la crise de ce que peut être la conduite de la guerre, et d'une certaine manière aussi, par l'inadaptation, vous en avez parlé, des armées à cette guerre nouvelle. On parle tout le temps de la Somme et de Verdun. C'est des carnages. Mais le vrai moment où les soldats européens meurent en masse, c'est la première année. C'est 14 jusqu'à fin 15, où là, on a quasiment un tiers des morts de la Première Guerre mondiale, voire plus, parce qu'en fait, les armées ne sont pas préparées à cette guerre qui va les percuter. Et c'est pour ça qu'en fait, l'ensemble de la séquence est très important, 14-45, parce qu'on entre dans quelque chose. Et on a l'impression qu'on en sort, en fait, dans les formes que je viens de lister, en août 45, avec les bombardements de Nagasaki et d'Hiroshima.
Oui, parce que l'articulation, effectivement, de la question de l'État d'un côté, et ça, vous y insistez beaucoup aussi, c'est aussi probablement la différence entre la France et l'Allemagne sur le rapport entre l'État et l'armée, où effectivement, il y a un moment en France où l'État reprend la main, justement, en disant l'armée n'est pas capable de gérer la guerre, entre guillemets, et le garde jusqu'à la fin de la guerre de 14-18, alors qu'en Allemagne, la tension entre les deux ne se résout véritablement jamais. On ne verra qu'on évoquera l'entre-deux-guerres, les conséquences que cela peut avoir. Et cette place de l'État, elle va déterminer profondément, effectivement, la suite. Et l'autre point que vous avez évoqué en passant, c'est aussi une des grandes questions qui est posée. Alors, il y a toujours présenté la guerre 14-18 comme une guerre industrielle et son articulation justement avec donc, ce qu'on appelle la révolution, qui est en fait plus un continuum industriel entre la fin du 18e et tout le 19e, et qui va créer les conditions de possibilité d'une guerre qui prend une forme inattendue.
Alors, sur la question de l'État, on a une question, on va dire, micro, enfin, qui est une grosse question, hein, sur 14-18, où il y a déjà des travaux qui ont été faits, assez anciens, Fabienne Bock, sur le parlementarisme de guerre, qui montre que la culture républicaine française de la Troisième République résiste à la tentation, pour le dire vite, d'une dictature militaire, du GQG, du Grand Quartier Général. En Allemagne, c'est l'inverse. Ludendorff et Hindenburg, les deux plus grands généraux, sont capables d'imposer leur vue au chancelier Bethmann-Hollweg et quasiment de mettre le Reichstag, l'Assemblée, sur la touche. Mais je pense qu'on peut, toujours en gardant cet horizon un peu 14-45, il fallait qu'on fasse des choix narratifs pour l'organisation des chapitres. Et donc, on a choisi des choses très claires. Une guerre industrielle, une guerre de masse, etc., etc. Et cette guerre de masse, c'est pas une guerre démocratique. François Furet disait c'est une guerre démocratique. C'est pas une guerre démocratique. 14-18, c'est le pire. C'est décidé sans l'aval du Parlement, qui ratifie quelques jours plus tard, en France comme en Allemagne. C'est une guerre de l'autorité, c'est une guerre des liens hiérarchiques verticaux entre les officiers et la troupe. Enfin, il n'y a rien de démocratique. Donc j'ai un peu subverti cette expression de Furet dans le passé d'une illusion pour dire non, c'est une guerre de masse. Et la masse est un objet qu'on n'étudie pas assez. Elle est bloquée entre la foule, qu'on étudie avec Gustave Le Bon, ou très récemment. Elle est bloquée entre la nation, elle est bloquée entre le peuple. Mais ce qui se joue à ce moment-là, que ce soit dans les usines ou dans l'armée ou dans l'État, c'est gérer la masse, gérer les 8 millions de soldats français, gérer les 13,1 millions de soldats allemands. Et c'est pas facile. Et donc, ce qu'on voit dans l'ensemble de cette séquence, 1445, c'est l'émergence d'un État qui n'a pas les moyens financiers, bureaucratiques, etc., de faire ça en 14. Et qui va le faire pourtant, qui va réussir peut-être mieux que les armées à organiser cette guerre totale. Alors, du côté 14-18, ça a été montré. Il y a aussi le très bon livre de Nicolas Rousselier hein, sur la force de gouverner, où il montre qu'en fait, la guerre oblige la Troisième République à répondre à la question de la place de l'armée dans l'appareil d'État. Depuis l'affaire Dreyfus-Boulanger, c'était une question qui n'avait pas été tranchée. Qu'est-ce qu'on fait de l'armée dans une république? Et 14-18 oblige à trancher. Mais si on regarde de plus loin, avec un télescope, un microscope au choix, on constate que cette séquence 14-45, elle est l'émergence de nos États modernes. L'État, avec sa main droite, armée, police, capacité de destruction, et donc il y a une partie de chapitre qui montre que l'État déborde parfois. L'État turc, quand il décide et fait et met en place le génocide des Arméniens, mais aussi d'autres États qui vont utiliser les prisonniers de guerre comme une force de travail. L'État allemand met en esclavage une partie de la Pologne en 14-18. Et ça, c'est moins connu, mais comme en 39-45, c'est beaucoup, beaucoup plus connu. Et donc, on a l'émergence de Behemoth, cette espèce de monstre qu'est l'État, que Carl Schmitt appellera l'État total, hein, qui contrôle tout, ce qui est très intéressant, et je ne pense pas qu'on a conclu dans l'ouvrage. On a suggéré, ça reste un mystère, pourquoi en 45, cette guerre totale, au lieu d'émerger, au lieu de faire émerger des États monstrueux comme l'État fasciste italien, comme l'État nazi, fait émerger l'État providence. Rapport Beveridge, 1942. Ce sont les mêmes attributions d'un État extrêmement puissant, mais mis au service de la main gauche, et en l'occurrence de la protection sociale. Et donc ça, c'est, on suggère des hypothèses, on n'a pas les moyens, on est des jeunes chercheurs et chercheuses, on n'a pas les moyens de conclure, mais on a essayé de retracer de manière très synthétique cette histoire de l'État qui prend en main l'effort de guerre.
Alors, qui est très importante et ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez là, c'est que donc d'un côté il y a, on va dire, cette histoire massifiée et de l'autre, sur quoi vous êtes extrêmement attentif aussi, qu'est la dimension individuelle, c'est-à-dire la dimension des acteurs. Et ça, là-dessus, il y a aussi la recherche a beaucoup travaillé, à la fois par exemple ce que vous évoquez sur la question du bourrage de crâne, qui est pas simplement la question de la propagande, qui est aussi de montrer comment dans le détail il y a à la fois une émission d'un message par l'État pour le coup, mais une réappropriation régulièrement par les acteurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idée d'un État non plus tout puissant qui impose systématiquement sa manière de voir aux acteurs. Il y a évidemment le débat, alors qui maintenant est moins vif, et entre autres sur la question évidemment du consentement qui a animé pendant 20 ans l'historiographie française sur la guerre 14-18, et aussi une grande modification, pour faire une troisième question dans la question, qui est la question des représentations qui changent pendant cette guerre, avec toute une histoire des sensibilités. Là, il y a des travaux absolument passionnants, par exemple sur le fait que vous évoquiez le fait qu'on a affaire à une armée de gens lettrés, donc qui écrivent des milliards de lettres, se retrouvent à exprimer des sentiments dans ces lettres, et que donc là, on a une donnée archivistique absolument considérable, mais qui change aussi la représentation qu'on peut avoir des acteurs eux-mêmes dans la vision qu'ils ont de leur guerre.
Alors, pour résumer la question, c'est une question de source. C'est-à-dire comment on écrit ces deux conflits quand on est confronté à des sources traditionnelles, administratives, militaires, les journaux de marché d'opération, mais quand on est confronté à cette vague, il y avait une exposition pendant le centenaire, Orage de papier, pour paraphraser Junger, Orage d'acier, à ces vagues de témoignages, de lettres, 10 milliards de lettres échangées, il me semble uniquement pour l'Allemagne en 14-18, enfin, c'est considérable. Et aujourd'hui, alors je le dis pour celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez y accéder, notamment par exemple par la plateforme Europeana 14-18, qui est une plateforme européenne, où vous pouvez vous balader. Moi, j'ai beaucoup recouru à cette plateforme, elle a des gros défauts d'indexation, mais elle donne accès à des sources, alors pour ce que je connais, c'est-à-dire anglaise, allemande, qui permettent, j'ai retrouvé des sources incroyables, des journaux où on lit, alors faut aimer déchiffrer, mais un soldat qui dit voilà, je suis blessé, et en fait la balle est passée à travers le journal. Donc on voit en digitalisé le journal avec la balle qui est passée à travers. Bon, des gens qui racontent être allés se battre jusqu'en Macédoine. Donc on a un stock quasi infini qui nous permettent de diversifier nos sempiternelles remarques, barbus, etc. Et d'ailleurs, j'espère que ça se voit dans le livre, on pense à nos collègues littéraires, on a essayé, moi j'aime beaucoup la littérature, donc j'ai eu une approche pragmatique, je me suis dit, est-ce que je peux lire 27 romans des 27 pays actuels d'Europe, etc. Donc j'ai lu Curtius Malaparte, mais pas le Curtius Malaparte de Caput pour la Seconde Guerre mondiale, énorme, magnifique roman, non. Le Curtius Malaparte de Viva Caporetto, 1917, qui vient juste d'être traduit en français. Milos Černanski, grand auteur serbe. Voilà. Alors, il y avait des choses qui étaient utiles ou non. Il y a des livres que j'ai pas cités, mais essayez de diversifier tout ça. En revanche, ça ne peut pas, on revient à la question de l'histoire populaire et des sources, on ne peut pas écrire à travers de 3, 4 sources, 5 sources, 10 sources, 20 sources, même si on en avait 1000, la réalité de la guerre. Nicolas Mariot a rué dans les brancards pendant le centenaire, dans son livre « Tous unis dans la tranchée », pour montrer que très souvent, quand on utilise ces sources-là, on fait une histoire bourgeoise de la guerre. Et Julie a essayé de faire la même chose pour 39-45, de prendre des sources, sources japonaises, sources chinoises, sources russes, Vassili Grossman, la littérature. Mais il ne faut pas prétendre qu'on écrit la guerre par en bas. En revanche, vous venez de le dire, on essaye de faire ce qu'on appelle en allemand une Erfahrungsgeschichte, une histoire de l'expérience, pour montrer en gros, voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau des soldats, au ras du sol. Et là, on arrive effectivement à une sorte de reformulation des débats des années 2000-2010. Parce qu'évidemment, bon, peut-être on parlera de ce débat historiographique, mais c'est pas un hasard. J'ai passé l'agrégation et le CAPES en 2005, en plein milieu de ce programme qui était guerre, paix, société 1911-1946. Julie aussi, nous étions tous les deux étudiants à Nanterre, même si on se connaissait pas à l'époque. Et il y avait d'énormes conflits sur cette école du consentement, qui était, pour dire très rapidement, une soi-disant école autour de l'historial de Péronne, et puis une autre soi-disant école de la contrainte qui disait en gros comment les soldats ont tenu. Par la contrainte, assez traditionnellement, les procès, les 700 fusillés pour l'exemple français, 500 en Italie, etc., beaucoup moins en Allemagne. Et de l'autre côté, l'école du consentement, produisant une théorie autour de ce qu'on appelait la culture de guerre. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une émission du bourrage de crâne, la propagande, la censure de la presse, l'État, l'unité, l'union sacrée, la fleur au fusil, qui n'existe pas. Non, les Français ne sont pas partis joyeux en guerre. Et aujourd'hui, on est capable de peut-être interroger l'appropriation par les acteurs. On a les travaux de Clémentine Vidal-Naquet sur comment, dans les couples, on parle d'amour. Ça paraît anodin, mais on parle d'amour dans la guerre. Qu'est-ce qui se joue dans ces correspondances-là? On a un certain nombre de sources qui nous permettent d'écrire ça. Et ce qu'on voit, ben, comme d'habitude, c'est qu'il y a une marge de manœuvre. Il y a un jeu. Les acteurs ne reprennent pas directement le bourrage de crâne en disant « la guerre est complètement légitime, tous en marche pour la croisade, etc. » Mais en même temps, ils disent « je hais le Bosch ». Ou inversement, côté allemand, les Russes sont des barbares qui vont nous envahir. Donc il faut entrer dans le détail. Et ce livre-là, qui en plus est une synthèse, n'a absolument pas la prétention de régler la question de cette ligne de front intérieure dans cette expérience, dans cette appropriation des discours. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour le coup, on a des outils de comparaison d'une réelle émergence médiatique d'un échange visuel et scriptural à l'échelle de l'Europe. C'est-à-dire qu'on voit ce qui circule, les cartes postales, etc. Et aujourd'hui, on est capable d'écrire cette histoire-là de comment se dessine, en fait, la circulation médiatique de ces informations entre les alliés au sein des puissances centrales. Et ça nous aide quand même à voir quel message est émis, quel message est réapproprié.
Avec une donnée sur laquelle vous insistez dans un chapitre entier qui est très important, on a évoqué la dimension massive et industrielle de la guerre, et le troisième point, c'est l'idée que c'est une guerre révolutionnaire. Donc ça, vous faites un chapitre important à ce sujet-là, qui est une révolution à plusieurs points de vue, une révolution culturelle, parce qu'il va aussi y avoir des productions artistiques liées, évidemment, à la guerre de 14, une révolution sociale, hein, parce qu'on n'a pas évoqué le contexte dans lequel la guerre s'ouvre, mais c'était aussi un moment d'espoir social, d'une façon que la guerre va pour partie refermer et pour partie réouvrir. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante, et vous l'avez souligné en passant, mais qu'on ne retrouvera pas, ou très différemment, avec la Deuxième Guerre mondiale.
Alors ça, je veux dire, on est sorti de ce livre avec Julie, en se relisant l'un l'autre, en comparant, en essayant en fait de vraiment tresser des questionnements communs. Et ce questionnement-là, pour 14-18, il est classique. On sait que la guerre, on peut même revenir à 14 en fait. Parce que dans le public français, la vision, c'est l'union sacrée. On y va tous. Côté français, c'est à peu près logique. Le pays est attaqué par l'Allemagne, violation de la neutralité belge, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus ambigu. Ça a été montré par Jean-Jacques Becker il y a 40 ans. En Allemagne, un pays qui va agresser ses voisins, tout en étant agressé par la Russie sur sa frontière est, cette notion de l'unité et de ce qu'on appelle Burgfrieden, en fait, la trêve des châteaux, est beaucoup plus complexe. Mais en réalité, 14 est un pari, et est un pari des gauches européennes pour dire « on va en guerre ». Le monde ouvrier, qui était profondément antimilitariste, va en guerre, mais attention, on obtiendra ce qu'on veut obtenir à la fin de la guerre. Pour ce qui est de l'Allemagne, par exemple, l'abolition du vote des trois classes en Prusse, la parlementarisation du régime, voire une monarchie constitutionnelle. En Russie, il y a des espoirs. Alors, il y a des espoirs à droite. Il y a l'espoir de terminer la nation. Mais il y a des gros, gros espoirs à gauche, qu'on soit réformiste ou révolutionnaire, sur ce que 14 veut dire. Et ces espoirs, très rapidement, 15, 16 et évidemment 17, ils vont exploser extrêmement fortement pour donner lieu à la révolution allemande, 1918, à la révolution russe, 1917, à la révolution hongroise, 1919, au, évidemment, grand vent de révolte en Italie, Biennio Rosso, en France, etc., etc. Ce qui frappe quand on compare avec 39-45, c'est qu'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas d'espoir révolutionnaire en 39-45, pour énormément de raisons. Et là encore, on suggère des hypothèses, mais on est incapable d'aller jusqu'au bout. Oui, les mouvements de résistance ont, pour certains, des espoirs révolutionnaires dans la Seconde Guerre mondiale. Mais on termine sur un grand moment, alors là, je le dis en termes marxistes, mais réformistes, voire social-démocrates, avec, on l'a dit, la mise en place des États-providence, mais pas du tout avec cette grande révolution, cette grande vague révolutionnaire de 1918-1923 en Europe. Et là, effectivement, on essaye de faire de l'histoire sociale, en sachant que, pour le centenaire 14-18, le grand absent de ce centenaire, c'est la révolution russe. On a loupé ce moment-là. Alors, on a eu beaucoup de choses sur l'arrivée des Américains en 1917. Il y a eu des choses, y compris à Bordeaux, il y a eu un grand colloque, il y a eu des publications, les Américains à Nantes, etc. En revanche, le centenaire de 1917 a été globalement assez atone, ce qui nous a fait manquer, d'une certaine manière, ce que disait Lénine, la guerre est le meilleur cadeau fait à la Révolution, parce qu'il avait vu, il était clairvoyant, il avait vu ce que la radicalité des rapports dans l'armée et dans des conditions sociales dans l'arrière allait léguer au mouvement révolutionnaire. Donc là, on reste un peu, pas sur une aporie, mais sur une hypothèse de comparaison. Pourquoi la sortie de guerre de 14-18 est révolutionnaire et pourquoi celle de 37-45 est fondamentalement réformiste? Alors attention, sauf quand on regarde dans le Pacifique, où là vont naître, et en Afrique, où vont naître les mouvements de décolonisation, de septembre 45, Ho Chi Minh, avec les Japonais qui ont complètement ébranlé la domination coloniale française, déclare l'indépendance du Vietnam, et donc là on rentre dans une autre histoire.
Alors justement, parmi les hypothèses que vous émettez, tout en disant que actuellement les travaux ne sont pas assez avancés pour qu'on aille plus loin, sur la question de la guerre 14, il y a l'hypothèse selon laquelle la violence qui s'y déploie serait aussi pour partie un effet retour d'un certain nombre de violences coloniales. Donc ça, effectivement, on voit que c'est quelque chose qui commence à apparaître peu à peu dans la recherche. Peut-être évoquer un peu plus précisément ce que vous entendez par là, parce que c'est une question qui est importante, parce qu'elle permet aussi de limiter 14-18 comme rupture. Ça permet de dire aussi, ça vient de quelque part, on l'a vu pour la partie industrielle ou étatique, mais ça vient aussi pour les violences de quelque part.
Alors, c'est un immense chantier, dans le sens où, pour moi, ça interroge aussi, je n'aurais pas l'impudence de donner des directives pour les années de recherche à venir, mais ce qu'on peut voir pour 14-18, c'est que la date de 1918 a explosé. Tous les travaux des 10 dernières années, dans la foulée de ce qu'a fait Bruno Cabanne, encore lui, sur les sorties de guerre, dans la foulée d'un livre comme « Les vaincus » de Robert Gerhardt, c'est de montrer que la violence continue après 18 et qu'en gros, la Première Guerre mondiale s'arrête en 1923. Quand on voit les violences entre la Grèce et la Turquie en train de naître, Smyrne, évidemment, Salonique, etc. Quand on voit ce qui se passe, c'est bête. On a tendance à déconnecter les choses. Mais l'Irlande, l'indépendance de l'Irlande n'est absolument pas déconnectée de la Première Guerre mondiale quand on sait que c'est les Black and Tans, donc des milices paramilitaires britanniques, anglaises, qui viennent réprimer le mouvement d'indépendance irlandais. Donc la guerre continue. Par contre, dans les causalités, 14, du fait aussi du succès de Christopher Clark, 14 est resté immuable. La guerre commence en 14 et on a un peu coupé 14 de ses causalités. On est habitué aux questions de causalité des origines de la guerre, mais on n'a pas encore fait cette histoire sociale des continuités entre 14 et l'avant-guerre. C'est un terme qui n'a pas de sens. Et à mon avis, elle reste à faire. Si on fait cette histoire-là, il y a des projets en cours, on montrera les continuités. Et dans ce point fondamental qui est que non, 14 n'invente pas toutes les formes de violence. Oui, elle invente peut-être des transgressions dans les formes de violence sur le continent. Les atrocités allemandes dans la conquête de la Belgique, 6500 civils tués, là oui, il se passe quelque chose. 30 000 Serbes tués, civils pendus par l'armée austro-hongroise, oui, il se passe quelque chose. Oui, évidemment, le génocide des Arméniens. Mais si on décentre le regard et qu'on regarde le champ des études coloniales, qui est extrêmement vif, et il y a un énorme débat en Allemagne sur ces questions-là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a du fait du génocide des Herero et des Nama, qui sont des peuples qui ont été exterminés jusqu'au dernier en Namibie, donc Südwest-Deutsch-Afrika, en 1904-1905, camp de concentration, marche de la mort, assèchement des puits, on a même un ordre, qui est l'ordre de destruction de Von Trotta, qui dit on les extermine jusqu'au dernier. cette question-là, mais pas seulement, à poser la question des continuités, des formes de violence, même avant la guerre. Et donc une sorte de cécité, en fait, de l'Europe à regarder les violences qu'elle commettait dans les guerres coloniales qui lui reviennent, qui reviennent en Europe. Et là, alors, je ne suis pas suffisamment compétent sur ces questions-là, mais on a des très beaux travaux comme ceux de Daniel Folliard sur la photographie coloniale qui montrent qu'en fait, ces violences étaient connues. Les 20 millions, on en a parlé avec Monsieur Van Reybrouck qui est venu ici parler de son livre sur le Congo et sur l'Indonésie, mais sur le Congo, 20 millions, 10 millions de morts, les mains coupées, etc., sont des choses qui sont sues. Mais comment sont-elles sues? Et comment sont-elles vues? Il y a une manière de pudiquement se dire que c'est loin et que ça ne concerne pas l'Europe. Et donc on a le cas particulier des balles explosives Doum Doum qui sont autorisées dans les guerres coloniales, mais qui ne le sont pas en Europe. Tout ça explose avec 14, et il faudra encore des recherches pour se dire quelles sont les continuités, quelles sont les nouveautés. Et effectivement, 14 n'invente pas tout. On a dans la guerre de sécession une escalade de violence en 1861-65, où il y en a déjà des armes automatiques, déjà des transgressions, mais ensuite tout ça va sédimenter. Il y a la guerre russo-japonaise, 1904-1905. Tout ça va sédimenter et prendre une proportion complètement inédite en 14. Et on retrouve toujours cette question de la violence qui va escalader au fil de cette période 14-45 avec des inventions. 14, c'est le gaz. 14, c'est les premiers tanks. C'est un certain nombre de débuts de bombardements par l'artillerie, la grosse Bertha, etc. Et tout ça, en fait, se retrouve substantivé en 37-45 avec l'avion à réaction biplan qui devient le bombardier, qui devient le bombardement de Hambourg, de Cologne, de Berlin, de Dresde, de Tokyo en 1943, bien avant la bombe atomique, qui devient l'utilisation massive des chars qui était pas totalement anecdotique en 14-18, mais qui devient la bataille de Koursk, etc. Donc des batailles massives, et tout ça, en fait, se transforme au fil de la période avec les jalons que sont la guerre du Rif, la guerre d'Espagne, évidemment, on pense à Guernica, etc. Donc c'est une question qui traverse complètement la période et qui, encore une fois, s'arrête d'un coup d'un seul, quasiment, en 1945, parce que la dissuasion nucléaire fait passer cette question de la violence dans complètement autre chose. On entre dans la guerre froide, dont les formes de violence sont complètement différentes.
Donc, finalement, c'est ce que vous dites dans le livre, le 14 intervient presque plus comme un accélérateur que comme une matrice, c'est-à-dire que se synthétise pendant la guerre 14-18 des choses qui le précèdent. 14 donne une forme extrêmement forte à ces choses-là, qui vont après elle-même muter et s'accroître généralement sur le deuxième conflit mondial.
Là, on est dans la terminologie.
Oui.
Je suis pas sûr que ce soit. D'ailleurs, c'est un débat qui est jamais tranché. John Horn, grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, parle de 14-18 comme une guerre en voie de totalisation qui devient totale en 15. Donc, on voit ces processus qui sont même dans la guerre. Ça, c'est les effets de chronologie. Quand on n'a pas beaucoup de temps pour enseigner, souvent, on est très rigide. 14-18. Typiquement, les mouvements d'anciens combattants ne naissent pas en 18, ils naissent dans la guerre, puisqu'il y a déjà des anciens. C'est des choses on est habitué à jongler, mais il faut le rappeler, tout s'invente sur des continuums qui ne commencent pas le 1er août 14, qui ne finissent pas le 11 novembre 1918. Donc, oui, il y a des choses, je ne saurais pas dire accélérateur, matrice, on sait que voilà, il y a le terme de 14-18 comme catastrophe originelle du 20e siècle, mais les 19e-istes ne seraient pas d'accord et viendraient nous taper sur l'épaule gentiment pour nous dire « Regarde, regardez tout ce qui se joue dans les guerres balkaniques, 1912-1913. » On ne comprend pas la violence de l'occupation austro-hongroise, y compris par les armées bulgares, en Serbie, si on ne connaît pas les guerres balkaniques. Donc des choses s'inventent vraiment progressivement et trouvent leur culmine, évidemment, avec 39-45.
Alors, et le livre pivote autour d'un chapitre que vous avez coécrit, qui est le chapitre autour de l'entre-deux-guerres. Alors, vous évoquerez le fait, évidemment, hein, il y a une sorte de paradoxe, puisque quand on est dans l'entre-deux-guerres, il n'y a pas cette appellation-là. Et en revanche, ce qui me semble aussi très important, c'est le souhait que vous avez de faire en sorte de montrer qu'il n'y a pas de déterminisme. C'est-à-dire que même si des choses s'inventent en 14, qu'on retrouve en 39-45... Il n'est pas écrit, comme on l'apprend aussi, ou comme on l'a appris beaucoup, en 18, le traité de Versailles n'écrit pas l'idée que va y avoir une deuxième guerre 20 ans après. Ça, c'est une dimension extrêmement importante, de dire que c'est un monde ouvert de possibilités qui sont variées. Et dans le cas précis de l'Allemagne, ce que vous montrez, qui me semble-t-il assez essentiel, c'est la lecture par de l'histoire sociale d'une lecture générationnelle, alors qui est, je crois, relativement bien identifié dans l'historiographie allemande, peut-être moins dans l'historiographie française, mais qui est très importante, c'est-à-dire qui consiste à montrer qu'effectivement, les acteurs, entre autres, de la Révolution allemande, avec la question des corps francs, ne sont pas littéralement forcément ceux qui ont fait le front en 14-18. Et cette dimension générationnelle, pour le coup, elle, on va la retrouver dans la façon dont est structurée, entre autres, l'euthanasie, 20 ans après.
Alors, sur ce chapitre, sur l'entre-deux-guerres, clairement, c'est une discussion qu'on a eue avec notre éditrice. On ne pouvait pas faire une synthèse. Il aurait fallu, on a 6 chapitres sur 14-18, il me semble, 6 chapitres sur 39-45, il aurait fallu 6, 7, 12 chapitres pour l'entre-deux-guerres. Alors on aurait pu les écrire, très honnêtement, je pense qu'on aurait manqué un peu de... On aurait dépassé nos capacités de chercheurs et de chercheuses. Là, on est parti vers l'essai, c'est-à-dire qu'en fait, le chapitre est un peu plus long que les autres, mais clairement, il n'y a qu'un seul chapitre. On n'est pas dans ce qu'a fait Nicolas Beaupré dans ses grandes guerres, où là, on a un massif histoire des grandes guerres en France, mais on a tout l'entre-deux-guerres. Donc, il a fallu choisir. Et il a fallu choisir des lignes directrices puissantes pour essayer de résumer l'histoire mondiale de deux décennies qui, quand même, ont beaucoup compté. Et vous l'avez dit, ce terme d'entre-deux-guerres est totalement piégé, puisqu'en réalité, on a des prémonitions dès 1918, dès 1919, on a Foch qui dit « ce n'est pas un armistice, c'est une paix de 20 ans ». Ebert, le président allemand, qui dit « de ce traité va naître de nouveaux crimes et de nouveaux assassinats ». On a Thomas Masaryk, le président de Tchécoslovaque, qui dit « l'Europe est un laboratoire sur un grand cimetière ». Ces gens-là savent que les paix... Des traités de paix de région parisienne, Trianon, Sèvres, parce qu'il n'y a pas que Versailles, il y a la question turque, la question austro-hongroise. Quatre empires s'écroulent. L'empire russe, l'empire austro-hongrois, l'empire allemand, l'empire ottoman. Quatre empires qui étaient là depuis des centaines d'années. Donc les gens savent que ça va mal se passer, pour le dire vite. Simplement, si on regarde on regarde en 1928. Oui, Benito Mussolini est au pouvoir et a mis en place une dictature fasciste. Oui, Joseph Piłsudski est au pouvoir en Pologne, installe une dictature militaire. Oui, Miklós Horthy est au pouvoir en Hongrie, installe une dictature militaire. Oui, Primo de Rivera en Espagne et compagnie. D'accord ? Mais dans les autres pays, en Angleterre, en France, en Allemagne, les choses vont bien. En fait, ça va bien. Le parti nazi fait 2,6% aux élections présidentielles, aux élections législatives, pardon. Et on a un historien allemand, Lutz Raphael, qui a écrit un très bon livre qui n'est pas traduit en français, mais qui étudie aussi les pays scandinaves. Si on décentre un peu, l'Europe va bien. L'Europe est sortie de la guerre. L'Europe invente une modernité économique, culturelle. L'Europe invente un État qui fonctionne, une politique monétaire qui tient la route. Et donc, en fait, si on demande à ces gens de 1928, si on leur dit « Penses-tu qu'il va y avoir une Seconde Guerre mondiale ?» Alors, des pessimistes vont dire oui, mais on est en plein dans les années folles. Et les gens vont dire « Non, pas du tout. Tout va bien se passer. Il n'y a pas de problème. » Et on a essayé de restituer encore une fois, cette marge de manœuvre. Les années 20 sont des années qui fonctionnent et qui mettent en place une certaine modernité. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a les années 30, mais qu'au sein même des années 20, il y a aussi ces logiques qu'on a pu appeler de brutalisation. Et ça répond à votre question générationnelle. Cette question de la brutalisation, qui est un concept phare de l'historien américain George Moss, qui a beaucoup été repris en France, c'est cette idée de la continuation dans les temps de paix des attitudes agressives de la guerre. Citation. Qui montrerait qu'en fait, tout était déjà écrit. En fait, Hitler, ancien combattant, Mussolini, ancien combattant, Churchill, ancien combattant, Staline, ancien combattant, il n'y a pas de problème. En fait, tout le monde a fait la Première Guerre mondiale et tout le monde y retourne. Or, cette brutalisation, elle est une politisation de l'expérience de guerre. Elle est une transformation politique par les extrêmes droites, fascistes, nationalistes, européennes, de l'expérience de guerre, une usurpation pour dire, regardez, de la guerre doit naître une nouvelle manière de faire la politique, une politique en uniforme, une militarisation de l'espace public, c'est les mouvements fascistes, jusqu'en Roumanie, la garde de fer de Codreanu, jusqu'en Hongrie, jusqu'en Espagne, pour ce qui est des chemises bleues, la phalange. Et donc tout ça, en fait, va maturer. Et malheureusement, en fait, c'est pas que c'était écrit, c'est que c'est cette écriture de l'histoire-là et c'est cette usurpation politique de l'histoire qui va gagner, notamment avec le basculement de l'Allemagne en 1933, où la jeune génération, qui n'a pas fait 14-18, qui est né entre 1900 et 1905, mais qui a rêvé 14-18, qui a rêvé politiquement de ce que pourraient être les leçons de cette guerre, arrive au pouvoir avec les nazis. Et en fait, on peut même tirer les traits. 39-45, en Europe, c'est quoi ? C'est trois générations. Il y a un tiers des responsables nazis qui ont fait 14-18 à cette époque-là. Donc, voir des morts, ils ont déjà fait. Et vous voyez que ça pose une vraie question philosophique. Est-ce qu'on ne peut pas comment on peut comprendre 39-45 si on ne comprend pas que les gens qui sont aux manettes ont vu des centaines de milliers de morts jour après jour dans les tranchées? La deuxième génération, c'est cette génération qui, d'enfants, étudiée pour la France par Manon Pignot, qui a vu la guerre, qui en a rêvé, qui rêve d'égaler la génération du dessus en courage, mais qui va investir ce combat générationnel dans le combat politique, notamment contre les communistes. Et la troisième génération, c'est ce qu'on appelle la génération des jeunesses hitlériennes, qui, elle, a complètement été formatée pour la guerre à venir. Donc on comprend là l'engrenage qui mène au caractère totalement débridé des formes de violence de 39-45.
Avec un autre élément que vous soulignez aussi, qui est très important, qui est la lecture que vous proposez à partir de synthèse aussi autour de la question du totalitarisme, qui est aussi lui devenu un peu, on va dire, un pantosan depuis Arendt. Mais ce sur quoi vous insistez, qui est très important justement dans ce moment des années 30, c'est de montrer comment le totalitarisme, au-delà des caractéristiques qu'on lui connaît, c'est l'articulation de la puissance étatique telle qu'elle sort de 14 avec une autre donnée qui est celle de la mobilité sociale. C'est-à-dire qu'elle permet, l'État totalitaire permet effectivement, et entre autres par le crime ou par une forme de brutalité, à des gens qui n'étaient bloqués socialement, et entre autres suite à la crise de 1929, d'aboutir à quelque chose et d'aboutir à de monter dans l'échelle sociale par une forme de violence. Et ça, c'est une donnée, je pense, extrêmement importante aussi, pour le coup, pour comprendre la façon dont les choses se déchaînent entre 37 et 45.
Alors, ce qui est bien, c'est que j'espère qu'on a encore une heure d'entretien pour répondre à ces questions-là. Je pense que ça, c'est un acquis, alors qui est complètement exogène à mes propres recherches. Là, c'est vraiment l'historiographie. Je lis, donc voilà, il y a quand même des choses qui se passent, notamment sur l'historiographie soviétique. Et donc, je vais répondre à votre question. On en parle très souvent avec les collègues du secondaire, parce qu'aujourd'hui, vraiment très concrètement, on est dans un paradoxe entre la recherche et l'enseignement. La notion de totalitarisme, qui vise à comparer, soyons très précis, l'Allemagne nazie de 33 à 45 et l'Union soviétique stalinienne de 29 à 53 est abandonnée dans la recherche. Là, je suis assez clair. On peut débattre. Il y a le livre de Marianne Matar-Bonucci sur totalitarisme fasciste pour l'Italie, etc. Mais quand on regarde les spécialistes, c'était un gros débat dans les années 90 de cette comparaison entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Yann Kershaw, Moshe Lewin ont dit ça suffit. Ce concept, sculpté par Arendt, alors avant elle par Giovanni Amendola en 1923, mais peu importe, qui est un concept magnifique, très intéressant, qui a produit des très bonnes comparaisons. Aujourd'hui, il est tellement politisé, il sert tellement à dire si vous êtes communiste, vous êtes nazi, qu'en fait, vaut mieux l'abandonner. Sauf qu'aujourd'hui, dans les programmes scolaires, il est encore là, il est bien présent, et nos collègues du secondaire doivent expliquer que, regardez, le goulag, c'est pareil que les camps de concentration, alors j'exagère un peu, évidemment, mais ce concept-là fonctionne plus tellement. Donc, une solution pour continuer à en parler, sans l'utiliser comme le font les gens en sciences politiques, c'est-à-dire comme une liste de critères, il y a une police politique, il y a un culte du chef, etc., c'est de le réhistoriciser et de définir le totalitarisme comme le débordement d'un État qui s'est sculpté en 14-18, en Russie, comme en Allemagne, comme partout ailleurs, qui a été percuté par un projet politique, qui est, côté soviétique, le Parti communiste et la vision de Lénine, l'avant-garde du prolétariat. C'est pas une blague, c'est la militarisation du parti pour répondre à la puissance du capital. Et côté nazi, évidemment, c'est la militarisation du politique parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans les tranchées. Tout ça aboutit à cette vision qu'on connaît bien, le totalitarisme, c'est l'oppression à 100%. C'est l'absence totale de marge de manœuvre pour les acteurs sur place. C'est commode, c'est vrai. Quand 18% de la population est passée au goulag en Union soviétique, il n'y a pas de marge de manœuvre. Mais, et là on en arrive aux travaux que moi j'admire totalement de Nicolas Wirth sur l'Union soviétique, mais aussi de jeunes et jeunes chercheurs et jeunes chercheuses actuellement, Alexandre Zumpf, Masha Serovitch, toute une nouvelle génération, qui Juliette Denis, qui ont travaillé sur tout ça, côté Union soviétique, et qui ont montré quoi? Dans ces régimes totalitaires, il y a une part d'adhésion. Et au sein même de la mécanique du crime. Ça a été montré pour l'historiographie allemande et sur le nazisme par des historiens comme Goetzali, qui a osé dire, par provocation, que la dictature nazie, dont on pense qu'elle n'est que tout répression, et elle l'est pour les ennemis politiques, qu'il a parlé d'une dictature du bien-être. Et Lisa Mailander vient de reproduire un ouvrage sur cette question-là dans les rapports genrés, etc. Et donc, pour répondre, en essayant d'être synthétique, oui, à partir du moment, en gardant les idées de la notion de totalitarisme, dont une des pièces maîtresses qui est fondamentale, c'est sculpter un parti de masse, et ce parti va à la conquête de l'État. Mais on parle vraiment d'un parti de masse, c'est-à-dire pour le parti nazi, 1 million de membres. puis 8 millions de membres en 1945 pour le PCUS, des 5 millions de membres, ne serait-ce que pour l'armée rouge, etc. Donc en fait, le parti ne se dit pas « je vais prendre la tête de l'État », il se dit « je vais devenir l'État ». Et ça veut dire qu'à l'échelle locale, je suis en mesure, le parti est en mesure de utiliser l'État moderne comme un appareil militant. Et ça, c'est le versant toujours répressif. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que les cadres du NKVD, les cadres du Parti communiste d'Union soviétique, les cadres du Parti nazi n'étaient pas redevables au parti de cette ascension sociale? Et donc là, c'est très bien montré dans les différents travaux de Nicolas Wert, c'est une gigantesque machine à créer de l'adhésion pour les cadres. Et c'est pareil pour le Parti nazi. Pour ces jeunes générations, devenir membre de la SS, devenir membre de l'État... Il y a des chiffres tout bêtes. Le ministère de Joseph Goebbels, ministère für Volksaufklärung und Propaganda, pour l'instruction populaire, l'éclairement populaire et la propagande. 1000 fonctionnaires en 1933, 3000 en 1939. Mais toute cette gigantesque machine bureaucratique de l'administration ou du crime crée de l'adhésion, parce que les acteurs en font partie. Et ça, effectivement, on a essayé, pour le coup, d'un peu de renouveler cette vision du totalitarisme en montrant que la terreur s'exerce, évidemment. Il ne s'agit pas de minorer les souffrances considérables qu'ont vécues les citoyens soviétiques, les citoyens allemands qui étaient les cibles de la politique de répression nazie, mais de montrer que ces États totalitaires sont effectivement des gigantesques machines d'ascension sociale.
Alors, justement, même si le temps nous manque un peu, nous arrivons à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous avez évoqué un certain nombre de traits communs ou de parallèles qu'on pouvait faire ou de comparaisons qu'on pouvait faire entre les deux conflits. Donc, ce chapitre, cette partie rédigée par Julie Le Gac et qui propose plusieurs pistes très intéressantes, justement, sur lesquelles on va peut-être un peu s'attarder pour montrer comment les choses sont un peu décentrées par rapport à un récit qu'on semble bien connaître. Pour commencer, deux choses qui me semblent assez essentielles. D'abord, c'est elle fait commencer, mais ça, elle suit effectivement l'historiographie telle qu'elle se fait aujourd'hui en 1937, le deuxième conflit mondial, en montrant qu'il commence en Asie, autour de l'agression japonaise en Chine, et que même si dans un premier temps c'est déconnecté du théâtre européen, c'est vraiment là que s'origine la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, je vais profiter que Julie n'est pas là pour l'agonir de compliments. C'est beaucoup plus simple que si elle était là, où elle bougonnerait certainement. Mais Julie a fait sa thèse sur le corps expéditionnaire français en Italie. Elle connaît très bien les questions de genre, les questions d'histoire militaire, les questions de psychiatrie. Et elle fréquente très assidûment l'historiographie anglo-saxonne, ce qui lui permettait, en fait, sur ce versant pacifique sur lequel je suis absolument incompétent, qu'on se complète et qu'elle produise un récit qui, quand je l'ai lu pour les 6 chapitres qu'elle a écrits, moi, où j'ai appris énormément de choses, et franchement, c'est pas par flagornerie, vraiment, c'était un immense plaisir d'apprendre des choses, mais que j'ignorais totalement. 3 millions de Javanais qui meurent de faim sous la domination japonaise. 500 000 Chinois qui sont quasiment noyés par Chiang Kai-shek en Chine, leurs propres dirigeants dans cette Chine morcelée entre Chiang Kai-shek et Mao, etc., l'occupation japonaise, 500 000 personnes qui meurent de l'opération d'ouverture des barrages, enfin une gigantomachie guerrière qu'on commence à toucher du doigt un peu dans l'historiographie, par les travaux de John Dower. On connaît le massacre de Nankin, on connaît certaines choses, les femmes de réconfort en Corée, mais ici, dans le livre, c'est publicitaire, mais je me permets parce que c'est Julie, on découvre vraiment cet horizon où, en fait, on oublie quasiment l'Europe, au moins pour un temps, de dire, oh, évidemment, chose auxquelles on ne pense pas, la résistance dans les pays qui sont dominés par le Japon, qui avait son propre projet impérialiste de réunir l'ensemble du Pacifique autour des 8 coins sous le même toit, etc., etc. Donc c'est vraiment une lecture qui était intéressante. Et évidemment, elle fait commencer la chronologie en 37 avec l'invasion, notamment ce massacre de Nankin, qui est encore aujourd'hui nié au Japon de manière extrêmement vive par rapport au traumatisme chinois. Et elle déroule des théâtres d'opérations. Donc on a fait un effort sur la cartographie pour que ce soit accessible, parce qu'évidemment, quand on lit dans le fil du texte, on a un peu de mal à se repérer. Et donc on découvre cette histoire pacifique. Et j'aime bien la formule qu'elle a. Elle dit, en fait, le front européen et le front pacifique coexistent, mais sans jamais être synchronisés. Et c'est intéressant parce qu'elle pose des questions communes. J'en ai cité quelques-unes. L'effort de guerre, Mais d'accord, mais pas seulement l'effort de guerre du Reich, ou qu'on connaît, c'est-à-dire 2,8 millions de Russes et de Soviétiques qui travaillent comme esclaves en Allemagne, 1,6 million de Polonais, enfin, cette énorme exploitation du continent européen, mais pour une fois, on le regarde aussi du côté pacifique, de l'exploitation du Japon sur ces territoires qu'on connaît beaucoup moins. La résistance. La résistance, on sait ce que c'est en France. On a notre imaginaire lié à la France, les résistances de De Gaulle, etc. Parfois, on pense à la résistance polonaise, l'Armia Krajowa. De temps en temps, on imagine même qu'il y a une résistance allemande. Oui, il y a eu une résistance allemande contre les nazis. On pense aux tchétniques serbes. Mais là, on regarde tout de l'autre côté en essayant de tirer les fils. Alors, jamais pour dire que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Mais voilà, Julie fait tout ce travail-là. Et du coup, elle met en chronologie tout ça pour montrer que, ben voilà, 37-45, et puis c'est pas 45 le 8 mai 45, c'est évidemment 45 qui s'arrête en septembre 45 avec la capitulation du Japon. Donc, ça permet de circuler. Mais elle n'a pas essayé, je pense, artificiellement de lier les deux. Elle montre bien que c'est voilà quasiment deux guerres qui coexistent, qui ont évidemment des impacts les unes envers les autres, les États-Unis, Pearl Harbor, etc. Et puis tout ce que essaye de faire Staline aussi sur les deux fronts. Mais on ressort de cette lecture en ayant, j'espère, l'impression de redécouvrir la guerre. Et ça répond à votre dernière question sur la question de. On a l'impression, l'historiographie, en fait, bah, il faut vraiment maîtriser les auteurs anglo-saxons qui, en fait, produisent de l'historiographie sur des sujets. Alors, on n'est pas dans l'histoire à part égale. Sinon, il faudrait parler cantonais, japonais, etc. On ne peut pas avoir l'arrogance de revendiquer ça. Mais via les passeurs que sont vraiment la puissance de l'historiographie britannique, américaine, etc., on arrive à produire un récit qui est un peu différent.
Et justement, dans les choses, à mon avis, pour le grand public apporte ce livre, il y a la question de la place des femmes dans la guerre, alors qui ont deux versants évidemment très différents. D'un côté, qui est l'implication des femmes, alors qu'on avait déjà vu partiellement sur la Première Guerre mondiale, mais qui est là est beaucoup plus fort, puisque ça va, et entre autres par l'armée rouge, jusqu'à la présence militaire des femmes au sein des troupes armées. Et l'autre versant sur lequel elle fait un chapitre absolument passionnant, autour de la question des violences et des violences sexuelles faites aux femmes, et là qui, pour le coup, recouvre l'ensemble des théâtres d'opération et l'ensemble des camps. Alors évidemment, avec des ordres de grandeur extrêmement différents. Et ça, là aussi, je pense, quelque chose qui est relativement nouveau et qu'on ne voyait pas dans des ouvrages grand public, on va dire, il y a 15 ou 20 ans, sur la Deuxième Guerre mondiale.
C'est un ouvrage de synthèse qui n'a pas d'objectif de recherche. Il a l'objectif de tirer un bilan, d'essayer de le faire le mieux possible. Mais je pense qu'il y a un petit résultat de recherche dans ce livre. Et c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'en fait, en comparant nos compétences, Julie et moi, et elle connaît l'histoire du genre. Elle a publié cette Europe des femmes. Elle travaille sur ces questions-là. Elle travaille sur les violences faites aux femmes. On s'est rendu compte d'une chose très simple. 37-45, on sait de quoi on parle. On parle des 200 000 Coréennes prostituées de force par l'armée japonaise, qui utilise ce terme terrible de femmes de réconfort, qui sont enlevées et forcées à se prostituer. On parle, on le sait, des 2 millions de femmes allemandes violées par l'armée rouge au moment où elle conquiert l'Allemagne de l'Est, sur 7 millions de femmes. On connaît, même si c'est des sujets où là, Julie donne toute sa puissance sur des sujets nouveaux, on connaît peut-être, ou en tout cas on le découvre, les exactions de l'armée américaine sur les femmes françaises. Peut-être aussi les exactions de l'armée anglaise sur les femmes françaises. Puis, passer la frontière allemande, des viols qui augmentent de manière énorme parce qu'on est dans le territoire de l'ennemi. Donc tout ça, ce chapitre-là est très intéressant parce qu'elle montre ces violences-là faites aux femmes. Le grand mystère, c'est qu'effectivement, on n'a pas l'équivalent pour 14-18. Est-ce qu'on n'a pas l'équivalent? Alors là, il faut être très précis. Est-ce qu'on n'a pas l'équivalent parce que n'existe pas la même forme de violence? Il y a des conclusions. Par exemple, sur les atrocités allemandes, qui sont ces 6500 civils belges et français morts, tués par l'armée allemande en 14, étudiés par John Horne et Alan Kramer, la conclusion est sans problème. Il n'y a pas une politique de la violence sexuelle. Il y a des cas, mais ce n'est pas généralisé. Pour ce qui est du génocide arménien, il y a encore du travail à faire. À mon avis, il y a énormément de choses qui ont été publiées en 2015, mais il y aurait des choses à faire pour dire est-ce que ce qu'ont vécu les femmes arméniennes ressemble d'une certaine manière, par comparaison à ce qui se passe en 39-45. Mais à mon avis, c'est parce qu'il manque de la recherche. Il y a des travaux, Emmanuel De Bruyne, sur l'occupation de la Belgique, parce que, évidemment, quand on dit occupation, on pense 39-45, mais la Belgique, la Pologne, une partie de la France ont été occupées en 14-18. Donc là, c'est un peu ce qui jaillit. Il y a un énorme écart. Mais est-ce que c'est un écart dans la réalité? Je pense un peu. C'est-à-dire que, vraiment, les violences faites aux femmes et les viols par les armées sont un outil su et voulu par les états-majors dans la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas le cas en 14-18. Est-ce que ça veut dire que c'est en 14-18 uniquement une politique de l'accident? Je ne pense pas. Donc il y a des travaux à faire. Pour ce qui est de l'intégration des femmes, c'est des sujets un peu plus classiques. 14-18, on a souvent cette espèce de slogan. C'est en 14-18, les femmes ont travaillé. Non, les femmes ont toujours travaillé massivement. On a d'ailleurs invisibilisé leur travail, domestique ou dans les champs. Mais elles conquièrent en 14-18 des métiers qu'elles n'exerçaient pas avant, dans l'industrie lourde, dans les munitionnettes, etc. Simplement, il y a un backlash, un retour de bâton après 18, et elles sont renvoyées à la maison manu militari par leur mari, par les gauches et les syndicats, par la droite, par les États, etc. Assez rapidement. Ce qui est intéressant dans le chapitre de Julie, c'est qu'effectivement, on voit que là, quelque chose se passe. 20 ans sont passés. Les pays progressistes ont accordé le suffrage aux femmes, sauf la France, qui évidemment en 22 vote contre grâce à son Sénat progressiste. Bon, mais ce qu'on voit, c'est que dans l'effort de guerre, comme dans les forces armées là, et dans la résistance, les femmes ont une place massive. Et vous l'avez dit, dans l'armée rouge, on a même ces femmes qui sont formées. Alors, c'est devenu quasiment, grâce d'ailleurs aux jeux vidéo, une sorte de figure. Le sniper, la sniper russe, on le voit dans Call of Duty World War II, hein, où on peut incarner un personnage de femme sniper russe, mais c'est une réalité. Ça existait, il y avait des tireuses d'élite soviétiques, et au-delà de ça, dans la résistance, c'est un sujet qui a émergé, il y a quelques publications récentes, Dominique Missika, sur ces questions-là, les femmes ont été massivement investies dans la résistance, dans des tâches spécifiques, mais aussi dans des tâches extrêmement considérées comme viriles à l'époque, et malheureusement, là encore, il y a eu un effet d'invisibilisation après-guerre, pour dire qu'elles n'avaient pas participé. Donc là, on voit tout le profit qu'il y a à essayer. Alors, on aurait pu faire un chapitre histoire du genre, histoire des femmes, histoire du genre, poser ces questions-là, histoire des masculinités. On l'a pas fait. On a essayé de l'instiller dans l'ensemble de nos réflexions. Peut-être c'est dommage. On aurait peut-être pu aller plus loin et en faire un chapitre à part entière.
Sachant que vous l'évoquez, parce que les femmes en sont l'exemple le plus frappant, mais au cœur de la différence, si l'on veut faire ce travail-là aussi entre les deux conflits, il y a quand même la position des civils et le fait qu'effectivement, la guerre 39-45, d'abord c'est une guerre qui fait plus de morts civiles que de morts militaires, la différence évidemment de 14-18, et dans lequel, pour le coup, le civil n'est plus vu comme un effet collatéral, le fait de l'attaquer, mais au contraire, le civil est comme une sorte d'armée de réserve ou de front de l'arrière qu'il faut aussi aller attaquer, c'est tout le travail des bombardements. Et puis, il y a la question, évidemment, au travers de cela, de ce cas très particulier, qui est la question du génocide et la question de la Shoah, qui, elle aussi, est un champ de travail et de renouvellement historiographique important.
Je dirais, en essayant de trouver une formule qui soit synthétique, 14-18 est une guerre contre les civils de fait, 37-45 est une guerre contre les civils de droit. C'est-à-dire que toute la transformation de l'entre-deux-guerres, ça a été de théoriser et d'accepter que les soldats ne seraient pas les principales cibles du conflit, même s'ils le sont. Julie produit un chapitre qui s'appelle « Une guerre d'attrition » sur les conditions des soldats, qui est très, 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 très intéressant. Là, c'est une question qui est complexe, parce qu'en fait, les chiffres, on les a. 14-18, 10 millions de morts soldats, et ce chiffre qu'on n'avait pas il y a 20 ans, 10 millions de morts civils. Donc, on est à part égale, 50-50. Pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, on est à, je donne des maximums, 23 millions de morts soldats, mais 50 millions de morts civils, donc le double. Et là, ça change. Et on a Guernica comme point de bascule, comme symbole, puisqu'on a Picasso et qu'on a ce moment où, en fait, les choses auraient basculé et où les civils seraient devenus la cible principale. Alors là, encore une fois, il y a une question de dialectique qui est compliquée. Parce que 14-18 n'est pas une guerre qui ne touche pas les civils. On l'a déjà dit, le génocide des Arméniens, on a les prisonniers de guerre, on a les occupations, on a les bombardements de Paris par la Grosse-Bertha, et ça fait quand même un certain nombre de morts. On a, c'est bête, mais Karlsruhe, un bombardement par l'aviation des Alliés qui tue des enfants dans un cirque, c'est un traumatisme en Allemagne qui est quand même assez encore présent. Donc les civils sont là, parce qu'on est dans cette totalisation de la guerre. Mais là où c'est vrai, c'est que il y a un saut qualitatif, mais aussi un changement de nature, où 37-45 assume, en fait, ce qu'a fait 14-18. Et l'assume, alors, les bombardements sont le cas par excellence. On pourrait d'abord citer les famines aussi. Hein. 14-18 avait produit 763 000 morts en Allemagne de famine par le blocus franco-anglais. Mais on voit l'épanouissement terrible de tout ça dans la Seconde Guerre mondiale où, dans les pays en Asie, il y a énormément de famines qui sont utilisées comme armes de guerre. Puis évidemment, les Allemands qui théorisent le plan famine pour affamer sciemment et tuer des millions de Soviétiques. Hein. Donc ça c'est, on voit voilà, cette gradation. Pour ce qui est des bombardements, évidemment, le bombardement, c'est le symbole de la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai déjà dit, j'ai cité Tokyo, 43, les bombes incendiaires qui rasent la ville. On a ce très beau texte qui est la tombe des Lucioles, qui a été mis en manga, Tombeau des Lucioles. Horrible à regarder, on ne peut pas ne pas pleurer en regardant cette évocation de la destruction du Japon par les bombes incendiaires. Donc on a vraiment ce décloisonnement de la violence qui culmine avec la Shoah et donc la destruction des Juifs d'Europe, des 6 millions de Juifs d'Europe. Et là, on rentre dans un problème qui est que ce champ-là, résumer la Shoah en 10 pages, quand on connaît les renouvellements historiographiques, quand on sait qu'aujourd'hui on ne peut plus, ou en tout cas il est compliqué d'écrire le génocide, du point de vue central, depuis Berlin, on a tellement de monographies locales sur l'Ukraine, la Biélorussie, etc., la Serbie, la déportation des Juifs de Salonique par les armées bulgares, etc., par les autorités bulgares. Il faut écrire tout ça en 10 pages, en prenant acte aussi des filiations de violence que représente l'action d'euthanasie contre les handicapés mentaux, soi-disant handicapés mentaux, par l'Allemagne, où tous les gens qui ont gazé des handicapés en 39-41 vont ensuite être utilisés dans la Shoah. On a tout ça à écrire. Et évidemment, en 10 pages, c'est quasiment, passez-moi l'expression, mais une insulte de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Et ça a été compliqué. J'espère qu'on a eu assez de doigté. On écrit des pages et des pages de déluge de violence envers les civils en dehors de la Shoah. Et quand on en arrive à écrire le génocide, on a la plume ou le clavier qui tremble en se disant, mais est-ce qu'on n'a pas banalisé? Est-ce qu'on n'a pas amoindri la place du génocide dans tout ça? Ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer qu'il y a une unicité du processus de destruction des Juifs d'Europe, très clairement, parce qu'il y a un processus de décision qui se joue avec les Einsatzgruppen quand ils arrivent à Barbarossa, avec la destruction des Juifs polonais de l'opération Reinhardt, avec la conférence de Wannsee, la déportation des Juifs d'Europe. Mais tout ça se fait toujours en interaction avec toutes les autres formes de violence qui touchent l'intégralité des autres populations, que on pense tout simplement à ce que les nazis appelaient Partisanenbekämpfung, la lutte contre les partisans, ou en Biélorussie, on a 600 fois Oradour-sur-Glane. 600 villages brûlés, détruits jusqu'à la cendre, des partisans biélorusses. Donc tout ça, c'est d'essayer de remettre tout ça dans un contexte plus général qui montre le déluge de destruction qu'a été la Seconde Guerre mondiale envers les civils.
Nicolas Patin, merci beaucoup pour ce très beau travail et d'élucidation et de synthèse que vous nous avez proposé avec Gilles Legac. Et au plaisir de vous lire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.